Tragédie et musique. Les hommes qui se trouvent dans une discussion d'esprit guerrière, comme par exemple les Grecs du temps d'Eschyle, sont difficiles à émouvoir. Et lorsque la pitié triomphe une fois de leur dureté, une espèce de vertige s'empare d'eux, semblable à une force démoniaque. Ils se sentent alors contraints et secoués par une émotion religieuse. Après coup, ils font leur réserve sur cet état. Tant qu'ils y sont pris, ils jouissent du ravissement que leur procure l'ivresse et le merveilleux, mêlé à l'absinthe la plus amère de la souffrance. C'est là véritablement une boisson pour les guerriers, quelque chose de rare, de dangereux, de doux et d'amer que l'on n'a pas facilement en partage. La tragédie s'adresse aux âmes qui ressentent ainsi la pitié, aux âmes dures et guerrières que l'on terrasse difficilement, soit par la crainte, soit par la pitié, mais auxquelles il est utile d'être amolli de temps en temps. Mais que peut donner la tragédie à ceux qui sont ouverts aux affections sympathiques comme la voile au vent? Lorsque les Athéniens furent devenus plus doux et plus sensibles du temps de Platon, hélas, combien ils étaient encore loin de la sensiblerie des habitants de nos grandes et nos petites villes. Et pourtant, les philosophes se plaignaient déjà du caractère nuisible de la tragédie. Une époque pleine de dangers, comme celle qui commence en ce moment, où la bravoure et la virilité montent en prix, rendra peut-être lentement les âmes assez dures pour que des poètes tragiques leur soient nécessaires. Jusqu'à présent, ceci était un peu superflu, pour employer le mot le plus bénin. C'est ainsi que viendra peut-être encore pour la musique une époque meilleure. Ce sera certainement la plus méchante. Celle où les artistes musiciens auront à s'adresser à des hommes strictement personnels, durs par eux-mêmes, dominés par le sombre sérieux de leurs propres passions. Mais à quoi sert la musique pour ces petites âmes contemporaines de l'époque qui s'en va, âmes par trop mobiles, d'une croissance imparfaite, mi-personnelles, curieuses et désireuses de tout. Les louangeurs du travail. Dans la glorification du travail, dans les infatigables discours de la bénédiction du travail, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges des actes impersonnels et d'un intérêt général, l'arrière-pensée de la crainte de tout ce qui est individuel. On se rend maintenant très bien compte, à l'aspect du travail, c'est-à-dire de cette dure activité du matin au soir, que c'est là la meilleure police, qu'elle tient chacun en bride et qu'elle s'entend vigoureusement à entraver le développement de la raison, des convoitises, des envies d'indépendance. Car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires. Il retire cette force à la réflexion, à la méditation, aux rêves, aux soucis, à l'amour et à la haine. Il place toujours devant les yeux un but minime et accorde des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société, où le travail sans cesse durement, jouira d'une plus grande sécurité. Et c'est la sécurité que l'on adore maintenant comme divinité suprême. Et voici, ô épouvante, que c'est justement le travailleur qui est devenu dangereux. Les individus dangereux fourmillent, et derrière eux, il y a le danger des dangers, l'invidium. Mode moral d'une société commerçante. Derrière ce principe de l'actuel mode moral, les actions morales sont les actions de la sympathie pour les autres, je vois dominer l'instinct social de la crainte qui prend ainsi un déguisement intellectuel. Cet instinct pose comme principe supérieur, le plus important et le plus prochain, qu'il faut enlever à la vie le caractère dangereux qu'elle avait autrefois, et que chacun doit aider à cela de toutes ses forces. C'est pourquoi seules les actions qui visent à la sécurité générale et au sentiment de sécurité de la société peuvent recevoir l'attribut bon. Combien peu de plaisir les hommes doivent-ils avoir dès lors à leur propre aspect, si une telle tyrannie de la crainte leur prescrit la loi morale supérieure, s'ils se laissent ainsi recommander sans objection de passer sur eux-mêmes, à côté d'eux-mêmes, mais d'avoir des yeux de lynx pour toute misère, pour toute souffrance étrangère. Avec notre intention poussée jusqu'à l'énormité, de vouloir enlever à la vie toute rudesse dans les contours, toute espèce de coin, ne sommes-nous pas en bonne passe de réduire l'humanité jusqu'à en faire du sable? Du sable. Du sable fin, mou, granuleux, infini. Est-ce là votre idéal, à vous, qui êtes les héros des affections sympathiques? En attendant, la question reste à résoudre si l'on sert davantage son prochain, en courant immédiatement et sans cesse à son secours, et en lui aidant, ce qui ne peut se faire que très superficiellement, à moins de devenir une mamie tyrannique. ou si l'on fait de soi-même quelque chose que le prochain voit avec plaisir. Par exemple, un beau jardin tranquille et fermé qui possède de hautes murailles contre la tempête et la poussière des grandes routes, mais aussi une porte hospitalière.